course-poursuite entre le gouvernement catalan et le gouvernement espagnol. On va vous raconter comment le gouvernement catalan s'est retrouvé derrière les barreaux de la République espagnole. C'était en 1934.
Le retour vers le passé nous éclaire considérablement sur ce qui a été oublié, qui nous permet de comprendre un petit peu ce que liberté veut dire.
La Catalogne républicaine dans les années 1930.
Nous gagnerons. Parce que nous avons une armée qui est un modèle d'organisation, d'efficacité technique, de discipline. Vive la liberté des Catalans! Vive la République!
Luis Companys, président de la Generalitat pendant la guerre civile et qui sera fusillé sur ordre de Franco après avoir été livré par Vichy le 15 octobre 1940. 15 octobre. C'est le raz de marée de la République en 1931 qui a permis le rétablissement de l'autonomie de la Catalogne. Le gouvernement de Barcelone a alors relevé le nom de Generalitat. La Generalitat, au Moyen-Âge, était une institution qui garantissait les libertés locales. Et le Moyen-Âge a été une période faste pour la Catalogne, alors la partie la plus dynamique de la couronne d'Aragon. Le mariage, en 1469, des rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, n'eut pas tout de suite de conséquences pour la Catalogne, mais peu à peu, l'ombre de Madrid s'est allongée jusqu'à la mise sous tutelle le 11 septembre 1714 par Philippe V. Le roi d'Espagne aujourd'hui se nomme Philippe VI. Barcelone compensa la souveraineté perdue par la croissance avant de retrouver très tard un rôle politique propre. En 1931 donc, ce fut sur le registre républicain, une république catalane dans une fédération d'États ibériques, déclarait le premier président de la Generalitat. 40 ans plus tard, le rétablissement de la démocratie se faisant sous l'égide de Juan Carlos, les Catalans avalèrent la pilule monarchique grâce à l'obtention d'une nouvelle autonomie. Ni dans ces années 1970, ni non plus dans les années 1930, ils n'entendaient dissoudre l'Espagne. Mais leur esprit modernisateur, l'ouverture que leur permettait, leur façade maritime, les ressources qu'ils en tiraient, les avaient amenés à porter pour l'Espagne un autre projet que le projet centralisateur. La question se pose autrement aujourd'hui. Est-ce que Barcelone a encore un projet pour l'Espagne et Madrid un projet pour la Catalogne?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Stéphane Michonneau, bonjour.
Bonjour.
Historien de l'Espagne et de la Catalogne. Vous aviez fait votre thèse sur les politiques de la mémoire à Barcelone. Alors, on reproche aux dirigeants de Barcelone d'aujourd'hui de ne pas anticiper le coup d'après. On pourrait faire le même reproche aux dirigeants de Madrid. Nous, on va parler des coups d'avant. Et quand même, pour situer vos positions, vous publiez une tribune dans Libération aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas lu. 1. L'Espagne de Cervantes et de Goya n'est pas nécessairement la nation-État pure et dure et si ancienne qu'on dit. Et 2. Le catalanisme n'est pas nécessairement, à l'origine du moins, un sécessionnisme.
Oui, effectivement, ça peut paraître un petit peu étrange comme formule, mais même lorsqu'ils veulent la proclamation d'un État catalan indépendant, ils pensent toujours en même temps à une possibilité d'articuler la Catalogne et l'Espagne.
Enfin, où il pensait, parce que peut-être les choses évoluent-elles. Je demande aujourd'hui, dans sa lettre au gouvernement catalan, qui est censé être une réponse au gouvernement espagnol, parle surtout d'une nation catalane dans un cadre européen. Mais alors, revenons à la naissance du catalanisme dans des milieux de bourgeoisie entrepreneuriale à la fin du 19e siècle et une marque un peu plus à gauche à partir de 1919, c'est de cette date-là que vous datez la naissance du catalanisme ?
Non, de l'indépendantisme.
De l'indépendantisme catalan, pardon.
Oui, absolument. On est dans le contexte des 14 points de Wilson, où toutes sortes de nations accèdent à l'indépendance en Europe orientale. On est dans le contexte révolutionnaire de la révolution bolchévique. Et on a le contexte économique extrêmement mauvais d'une Espagne qui a plutôt bien profité de la Première Guerre mondiale, mais qui, à partir de 1918, subit les contre-coups d'un marché qui lui échappe.
Oui, la Catalogne est d'autant plus décidée à se montrer combative qu'elle n'a pas connu les combats de la Première Guerre, non plus que l'Espagne.
Absolument, l'Espagne était neutre pendant la Première Guerre mondiale. Donc cet indépendantisme naît de ce contexte entre 1919 et 1920, dans ces eaux-là. Et il s'inspire beaucoup d'ailleurs de l'exemple cubain.
Alors justement, on va entendre le colonel Francesc Macià. On ne va pas l'entendre directement, on va l'entendre tel que représenté dans un film qui est sorti en 2006, Josep Maria Forn en est l'auteur, film dont j'imagine que la nouvelle Generalitat de la Catalogne, qui dispense souvent des bienfaits en matière d'enseignement du catalanisme et en matière de culture catalane, a financé la réalisation.
Mais également le ministère de la Culture espagnole.
Ah bon ? Alors voici ce que disait, écoutez-le bien, le colonel Francesc Macià au début des années 1920, alors qu'il commençait à secouer la tutelle de l'armée espagnole dont il était membre.
Cette étoile que nous voulons incorporer à notre drapeau symbolise notre engagement d'implanter en Catalogne un État catalan.
A continuació té la paraula el nostre president, Francesc Macià.
La parole est à notre président, Francesc Macià.
Espanya no ha concedit mai de bon grat.
L'Espagne n'a jamais accordé de bon gré. Aucune liberté collective au peuple qu'elle a eu sous son joug. Pour preuve, le Portugal, les Flandres, les républiques américaines, Philippines et Cuba, qui ont dû obtenir leur indépendance par la force. Pour obtenir la liberté des Catalans, nous aurons à lutter. Et pour cette lutte, je veux être un soldat de l'armée catalane et non plus un colonel de l'armée espagnole.
Déjà la question qui se pose de nouveau aujourd'hui de la double appartenance. Le drapeau est Cuba.
Oui, ce drapeau qu'on appelle l'Estela, là, est, comme vous le voyez, une imitation du drapeau cubain.
Mais il date de quand ce drapeau ?
Alors, on dit qu'il a été créé par un monsieur qui s'appelle Vicens Ballester. En 1919, un monsieur qui voyageait pas mal à Cuba d'ailleurs. Alors ça peut paraître étonnant, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que Cuba, c'est le grand modèle des indépendantistes de l'époque. Cuba qui a mené une première guerre pour son autonomie entre 1868 et 78, et puis, puisque ça n'a pas abouti, une seconde guerre pour son indépendance en 1895, et finalement, indépendance acquise en 98 grâce à l'appui des États-Unis. Donc ça, c'est le modèle. Et toutes les tentatives politiques de l'indépendantisme des années 20 s'appuient sur des financements qui viennent d'Amérique.
On verra que le sentiment républicain gagne assez vite de la place en Catalogne. Cependant, il y avait eu une première république en 1873. Cependant, le roi Alphonse XIII, même si c'est un Bourbon, pour une fois, est assez bien accueilli, même en Catalogne. Mais ça ne va pas durer, parce que dans les années qu'on évoque, là, naissance d'un premier parti indépendantiste, pour répliquer à toutes les crises auxquelles il doit faire face, le roi fait appel à un dictateur, Primo de Rivera, qui laisse dans la mémoire catalane le souvenir d'un pré-Franco.
Effectivement, la naissance de ce parti, État catalan, en janvier 19, crée une situation de crise. Il y a d'autres facteurs, évidemment, les conséquences de la révolution bolchevique, qui vont forcer, enfin, pas du tout forcer,
pousser.
Pardon, pousser, voilà, Alphonse XIII à se ranger à la solution d'une dictature. Alors ce dictateur, Primo Rivera, il est capitaine général de Catalogne et il a été largement poussé par les élites économique catalane qui était en train de perdre leur assise et leur domination sociale et qui voyait d'un bon œil une intervention autoritaire de Madrid pour se remettre en selle en quelque sorte.
Alors dans la mémoire populaire, on cultive le souvenir du fait que le Barça, le club de foot, est suspendu, que la Sardane serait interdite.
Absolument. La dictature, évidemment, passe un contrat avec les élites catalanes. On vous remet en selle, mais en échange, vous abandonnez toute velléité autonomiste. Et puis, les expressions les plus évidentes de la culture catalane sont donc réprimées de manière très dure.
Oui, alors on fait sans arrêt allusion aujourd'hui à la Sardane. L'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel français prend position contre l'indépendantisme catalan en arguant du fait que sa mère dansait la Sardane et qu'il faut être plusieurs pour danser la Sardane. Ça se danse en rond, non?
Oui, ça se danse en rond. C'est un peu une danse qui est un petit peu le symbole de la communauté. Et on compte ses pas également.
Alphonse XIII va devoir renvoyer Primo de Rivera. Et en avril 1931, convoqué des élections municipales qui provoquent un raz-de-marée républicain, il est renversé et le mouvement est plus précoce presque à Barcelone qu'à Madrid. À Barcelone, le colonel Macià, revenu de son exil en France, va proclamer la République catalane. Très curieusement, les actualités cinématographiques pâtées, qui d'habitude sont la voix de son maître, trouvent extraordinaire ce mouvement, donc en 31.
Ici, à Barcelone, le peuple n'a pas douté un seul instant de l'issue de la bataille suprême qu'il livrait au roi. Tous veulent collaborer avec leur chef à l'installation de la République. Avec la collaboration de l'armée qui les acclame, ils procèdent à l'enlèvement des armes royales qui couronnent le frontispice des monuments publics pour leur substituer les insignes de la République naissante. Partout, le peuple veut voir l'épreuve de son triomphe et de sa libération. Acclamer son drapeau que tour à tour il fait hisser sur tous les monuments publics. Il veut voir se matérialiser sa République et laisser déborder devant elle l'immense joie qui emplit aujourd'hui le cœur de la Catalogne. Sur tous les bâtiments, le pavillon royal est définitivement amené pour faire place aux nouvelles couleurs.
Alors ceux qui attendent de Philippe VI une médiation, une solution, devraient se rappeler que le républicanisme est à ce moment-là déjà fortement ancré en Catalogne.
Oui, fortement. Traditionnellement, depuis le XIXe siècle, le républicanisme catalan est très fort. Il est de tonalité fédérale, ça c'est très important. Il a été même à la naissance de la première république espagnole qui était une république fédérale. Et il est très structuré en Catalogne, comme dans l'ensemble de l'Espagne à cette époque-là. Aujourd'hui, il n'y a qu'en Catalogne qu'il y a un républicanisme structuré sous forme de parti politique.
Mais dites-moi, la deuxième république qui commence donc en 1931, ça n'est pas une république fédérale? Il n'y a d'autonomie que pour la Catalogne.
Absolument. Il y a des discussions pour le Pays Basque également.
Qui vont aboutir très tardivement, trop tardivement.
Mais finalement, il y a après hésitation et discussion, la Constitution de la fin de l'année 31 ne dit pas que c'est une république fédérale. Mais elle ménage une autonomie pour la Catalogne et la renaissance de la généralité de Catalogne en 1932.
Alors la Generalitat, il y a aussi un, j'essaye de parler catalan et vous parlez beaucoup mieux Stéphane Michonneau, un gouverne. Et un parlement?
Oui, c'est un président qui est à la fois premier magistrat et premier représentant de l'État espagnol en Catalogne. Un parlement avec des élections au suffrage universel. Les femmes votent, naturellement. Et des compétences...
Enfin, naturellement, c'est la République espagnole qui instaure le suffrage universel. Vraiment universel.
Et des compétences relativement réduites. Des pouvoirs financiers relativement importants, peu importants. Et des compétences qui touchent au régime local, à la législation civile, un petit peu la santé, l'industrie, la communication. Un petit peu l'enseignement, mais pas totalement comme en 78.
Moins de compétences qu'en 1978. Beaucoup c'est moins. Le colonel Francesco Macià, déjà cité plusieurs fois, qui devient le premier président, l'appelle le grand-père, mais il meurt très vite. Il est remplacé par Luis Companys, qu'on va retrouver et qui était en exergue de cette émission. Vous disiez que la bourgeoisie entrepreneuriale catalane était disposée parfois à des concessions vis-à-vis de Madrid parce qu'elle était inquiète des conséquences de l'industrialisation, de la réussite de la révolution industrielle dans la région et du développement continu d'un mouvement ouvrier qui en plus avait des caractéristiques particulières, puisqu'il était essentiellement anarchiste, comme on dit.
Anarchiste, c'est l'un des seuls grands cas d'un anarchisme urbain. On connaît évidemment de l'anarchisme rural en Russie, en Andalousie, mais là il s'agit d'un anarchisme urbain extrêmement structuré autour de la CNT, hein, qui est née en 1909. Et on a là un mouvement ouvrier très structuré, extrêmement politisé, qui fait de la société catalane une société très conflictuelle. Et le nationalisme, c'est évidemment une solution pour ressouder cette société conflictuelle.
Oui, mais sauf que si les anarchistes font pression sur le gouvernement catalan et obtiennent, comme en 1934, il y a aussi des grèves générales dans toute l'Espagne, un début de réforme agraire. La République de Madrid ne tolère pas ce que la bourgeoisie entrepreneuriale de Barcelone n'aime pas non plus, Et en 1934, il y a une crise terrible entre la République de Madrid et Barcelone.
Oui, à la faveur de l'entrée du parti de droite, dont la fidélité à la République est plus que discutable, à la faveur de l'entrée de quatre ministres de la SEDA à l'intérieur du gouvernement radical de centre-droit, eh bien, une crise se déclenche en Asturie, qui donne lieu à une grande lutte ouvrière qui se terminera très très mal. Et puis, à Barcelone, le président Companys, prend prétexte de cette insurrection pour prononcer et proclamer l'État catalan dans la République fédérale espagnole, formule qui est assez proche de celle que Macià avait prononcé en 1931, puisqu'il avait parlé d'un État catalan intégrant la Fédération ibérique. Toujours ces formules un peu ambiguës.
Oui, mais le gouvernement de Madrid, là, ne supporte pas.
Non, mais ce qu'il ne supporte surtout pas, c'est l'insurrection ouvrière.
Voilà. Et donc, il va mettre le gouvernement catalan derrière les barreaux.
Absolument.
Il y a des photos dans toute la presse qu'on commence à ressortir maintenant, où on voit les ministres de Companys et lui-même derrière les barreaux.
La généralité est suspendue et Companys est emprisonné jusqu'en février 1936, date de la victoire du Front Populaire.
Il est temps de faire retentir la Marseillaise en catalan.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Dans les années 30, la République en Catalogne. La Marseillaise, on l'entend partout dans ces années-là, dans les rues de Catalogne.
Oui, on l'entend pas mal, oui.
Est-ce que je vous ai dit que l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel mettait en avant ses origines catalanes? Manuel Valls se prend position en mettant en avant ses origines catalanes. Quelle est la raison de votre goût pour la Catalogne, Stéphane Michonneau?
Un coup de cœur. J'aime beaucoup Barcelone et puis j'aime les Catalans parce que ce sont des gens qui sont dans une identité inconfortable. Je trouve ça intéressant.
Sur le fil du rasoir.
Exactement.
Ouais. 1936, en février, vous le disiez, le gouvernement catalan qui était sous les barreaux depuis 1934 est libéré à la faveur de la victoire du Front Populaire aux élections et d'une amnistie qui est déclaré par le dit Front Populaire. Companys reprend son poste.
Il redevient président de la Généralité, oui.
Et ça ne va pas durer longtemps. C'est en février qu'ont lieu les élections, et c'est en juillet que va commencer l'insurrection franquiste. On va entendre un son d'une manifestation importante qui était prévue en juillet à Barcelone. Jeux olympiques de Hitler à Munich, 36.
Oui.
Protestation, riposte des mouvements socialistes et communistes. Des Olympiades populaires sont organisées à Barcelone.
Et antifascistes.
Et antifascistes. Et donc on fait venir des athlètes de toutes les fédérations gymniques de gauche ou d'extrême gauche.
Oui, environ.
Et un peu toute la France.
Une quinzaine
de pays. Et un peu toute l'Europe, pardon.
Une quinzaine de pays, 5000 athlètes financés par la Généralité, le gouvernement espagnol et également le gouvernement français. Et certains de ces athlètes, d'ailleurs, vu les événements, intégreront les premières colonnes de miliciens pour aller lutter sur le front d'Aragon.
Je ne suis pas sûr que ce soit le cas du lutteur français, issu de la fédération de la CGT, j'imagine, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe et qui ne le comprend pas encore une douzaine d'années plus tard quand il est interrogé dans l'émission d'André Gillois, « Soyez témoins ». Il voit beaucoup de mouvements dans Barcelone, il faut savoir que l'insurrection de Franco a touché la majorité des casernes de la ville. Est-ce que les civils vont pouvoir riposter?
Nous sommes arrivés sur la place de Catalogne. Et là, évidemment, il y avait encore beaucoup de monde. Et jusqu'à ce moment-là, c'était assez calme. Nous nous sommes promenés. Nous avons croisé des voitures avec des gens, des voitures, des camions aussi, et des gens couchés sur les
garde-boues.
Sur les garde-boues. Enfin, l'image que nous avons vue à la Libération. avec des fusils, qui regardaient à droite et à gauche, mais quelques coups de temps à autre, après la mitraillade du matin, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes. Nous sommes rentrés, je crois, nous avons déjeuné et nous sommes sortis. Je crois que c'est à ce moment-là que sur la place de Catalogne, il y a vraiment eu une bataille. C'était assez curieux parce que ça s'est produit à plusieurs reprises et aussitôt qu'il y avait un coup de feu, d'autres répondaient et si ça s'envenime un petit peu, tous les gens se sauvaient dans les rues envoisinantes, on se cachait et on faisait également la même chose. Mais 10 minutes après, si on n'avait plus rien entendu, la place se trouvait encore noire de monde, les pigeons redescendaient et on avait l'impression que c'était un dimanche et que tout le monde se promenait. Quand nous avons vu le président Companys, on a vu des soldats, mais encore assez loin, et qui paraissaient être ce qu'on peut appeler l'arme au pied.
Mais le président Companys lui-même était dans une voiture.
Ah, était dans une voiture automobile découverte. Je me souviens bien que c'était un homme qui pouvait avoir une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants et je crois même frisés. Il s'est levé, il a prononcé quelques paroles, peut-être de, je sais pas, 4-5 minutes, en espagnol évidemment. On n'a rien compris, il a été très applaudi, et ensuite il est parti plus loin.
Enfin, en espagnol, évidemment. Quand on parlait contre le fascisme, on parlait en espagnol. Mais peut-être s'est-il exprimé en catalan. En tout cas, le soir de cette journée tragique, il peut annoncer l'échec du soulèvement franquiste à Barcelone. Il l'annonce à la radio. Sauf que si les civils, les gardes civils, les ouvriers ont réussi à résister à la pression insurrectionnelle, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Et puis, les ouvriers ont dû piller des casernes, non ? Et s'équiper en armes ?
Oui, effectivement. En fait, ce n'est pas le coup des généraux qui déclare la guerre civile, c'est l'échec du lendemain. Parce que c'est un coup d'État raté. Et ils ne s'y attendaient absolument pas à ce qu'il y ait une prise d'armes de la part du mouvement ouvrier. Et c'est ça qui enclenche, évidemment, la formation de ces deux camps. Ce qui se passe, c'est que les autorités républicaines s'effondrent littéralement. En particulier à Barcelone, où les autorités de la généralité ne maîtrisent rien. Ce sont les comités ouvriers qui désormais tiennent la rue. Et l'histoire de Companys pendant la guerre civile, c'est l'histoire de la reconstitution d'un pouvoir pour la généralité en s'appuyant sur le Parti communiste, le Parti socialiste et les partis républicains contre la CNT et le PUM qui, eux...
Alors, CNT, le syndicat anarchiste dont oui. Vous avez déjà parlé, Stéphane Michonneau, le PUM, parti de l'organisation unitaire marxiste.
Absolument.
Parti anarchiste, entre guillemets.
On dit plutôt trotskiste, même si ça n'est pas tout à fait exact. Et là, se jouent toujours ces deux visions, hein, qui sont celles représentées par le président Companys, qui souhaite gagner la guerre pour faire la révolution, et à l'inverse, les anarchistes et les poumistes qui souhaitent plutôt faire avancer la révolution pour gagner la guerre.
Mais qui sont prêts quand même à une certaine intégration dans les institutions, à condition qu'ait lieu une collectivisation des terres et que le contrôle des comités ouvriers sur les entreprises devienne de plus en plus grand. Alors vous dites que Companys fait appel à Madrid, alors au bout d'un moment, pour demander à la République de Madrid de mettre fin au désordre des anarchistes et des trotskistes.
Non, en fait, c'est un conflit à l'intérieur de la Catalogne.
Une guerre civile dans la guerre civile.
Voilà, où finalement, les autorités de la généralité vont l'emporter avec l'aide des communistes.
Et est-ce qu'il n'y a pas des bateaux qui viennent occuper le port de Barcelone ? J'essaye de faire des rapprochements avec la situation de plus en plus tendue d'aujourd'hui. Et des bateaux envoyés par la République de Madrid ?
Non, la République à Madrid n'en a pas les moyens à cette époque.
Alors donc, cette guerre civile dans la guerre civile donne lieu à ce qu'on appelle les faits de mai 1937.
Oui, c'est cela. C'est ce que j'ai essayé de raconter.
Et alors oui, mais il faut voir qu'il y a des barricades qui, tenues par les anarchistes, oui. Essayent de résister aux communistes et aux légalistes, aux staliniens. Alors, un essai de reconstitution d'un autre ordre, qui était un peu une plaisanterie, je crois. C'est un disque situationniste de 1972, interprété par Jacqueline Dano, qui a choisi pour la circonstance le pseudonyme de Vanessa Ashloum. Ça doit rimer avec poum, bam bam badaboum.
Le sang coule dans la ville, aïe Carmela, aïe Carmela. Pour mes failles, c'est net et boum, badaboum, badaboum, bam bam. Pour mes failles, c'est net et boum, badaboum, badaboum, bam bam. Avec seul prix Barcelone, aïe Carmela, aïe Carmela. Thank you.
La République s'arme, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. La République s'arme, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. Mais d'abord contre nous autres, ay Carmela, ay Carmela. Mais d'abord contre nous autres, ay Carmela, ay Carmela. À Valence et à Moscou, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. À Valence et à Moscou, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. Le même ordre nous condamne, ay Carmela, ay Carmela. Le même ordre nous condamne, ay Carmela, ay Carmela. Ils ont juré d'abattre, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. Ils ont juré d'abattre, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. L'autonomie ouvrière, ay Carmela, ay Carmela.
Et ainsi fut normalisée la Generalitat. Le gouvernement républicain de Madrid va s'installer à Barcelone quand la situation deviendra encore plus difficile. Et puis février 39, c'est la défaite. Le président Companyiche, pour s'attacher encore à lui, va être exilé à la Baule. Et il sera livré par la Gestapo à Franco, torturé et exécuté le 15 octobre. 1940. Alors on nous dit tout le temps, vous voyez, ça va recommencer, ça va être la guerre civile. C'est vrai que la guerre civile espagnole, c'est une référence, ou l'expérience de la République, c'est une référence pour les catalanistes, plus que pour beaucoup d'autres Espagnols.
Pour beaucoup d'Espagnols, il y a une sorte d'équivalence entre démocratie et République. Les deux expériences démocratiques qu'a connues l'Espagne jusqu'en 1978 sont de nature républicaine. Donc cela reste un courant fortement présent dans l'ensemble de l'opinion publique espagnole, mais il est vrai qu'en Catalogne, il est particulièrement puissant.
Et quand est reconstituée, après le retour de la démocratie 77-78, une généralitat, c'est l'héritier de Companyiche qui en est nommé le chef. Parce que oui. La succession s'était faite clandestinement, en exil.
Voilà, c'est Josep Tarradellas, celui qu'on appelle le De Gaulle catalan, qui est l'un des était secrétaire général de ERC, hein, du parti fondé par Companys et Macià en 31, et qui est parti en exil naturellement, en France, en Suisse, et puis il a été nommé en 54 président de la Généralité, à la tête d'un gouvernement qui n'existait pas, au Mexique, puisque vous le savez, le Mexique n'a jamais reconnu l'Espagne franquiste. Et ce monsieur représente évidemment la continuité de la généralité, et il revient après avoir fait avoir établi des contacts avec Adolfo Suárez. Il revient
le
en Catalogne.
Premier ministre de Juan Carlos.
Il revient en Catalogne le 23 octobre 1977 et prononce ces mots que tous les Catalans connaissent. Ya soc aquí, je suis à nouveau ici.
Jordi Pujol va régner 22 ans sur la généralitat et jouer un rôle de consolidation de la majorité parlementaire du gouvernement socialiste au Cortés à Madrid. À l'époque, tout le monde trouve le catalanisme extrêmement raisonnable. C'est vrai que la coalition d'aujourd'hui, où le parti de Jordi Pujol en chute libre n'est plus que minoritaire, n'est pas sans rappeler celle du gouvernement de 1936.
Il y a effectivement des similarités. Pujol, ça représente le catalanisme conservateur, hein, un courant démocrate chrétien, très ancré d'ailleurs dans la religion chrétienne. Et c'est ce parti catalaniste qui vraiment est hégémonique des années 60 jusqu'en 2003. Et là, retournement et à nouveau retour d'un catalanisme de gauche avec la coalition que nous avons aujourd'hui, mais qui est tout de même dirigée par un ancien dirigeant de Convergencia.
Merci à vous Stéphane Michonneau. Sur notre site, toute référence, notamment celle du livre de François Godichaud. Cette émission était réalisée par Valérie Astaray, qui basque a été fort utile, mais Olivier Poujade, qui entend un peu le catalan, nous l'a été encore davantage. Très vite dans la tête au carré, cher Mathieu.
Oui, les effets du temps sur la peau dans un instant.
D'accord, bah oui, il fait grand soleil.
Ah, j'ai fait vite, hein.